Bien le bonjour chez vous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron qui vous accueille ici avec joie et avec enthousiasme et qui vous espère dans une forme extraordinaire. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ben, nous en sommes toujours bien sûr dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, hein, dont nous avons commencé l'étude il y a quelque temps déjà. Et nous en sommes à notre sixième méditation, en fait. Nous sommes au chapitre 2 et nous lirons ce matin le verset 24 jusqu'au verset 49. Donc, Daniel, chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 49. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Et j'ai dit jusqu'au verset, si ma mémoire me sert correctement, ce qui est assez rarement le cas, jusqu'au verset 49, donc on poursuit, verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Voilà une assez longue lecture, en effet, ce matin, mais il tombe sous le coup de l'évidence que c'est un tout, hein. C'est un texte qui se tient, c'est tout le songe de Nebuchadnezzar. D'entrée de scène, chers amis, on ne peut manquer d'apprécier ici l'attitude de Daniel dans son approche du roi. Hein? Alors qu'il donne à Dieu tout le crédit, toute la gloire, il donne ça tout au Seigneur pour la révélation qu'il a reçue. Et cette posture d'humilité qui caractérise Daniel est vraiment contrastante avec celle d'Arjoc, et c'est fait de manière frappante. Arjoc, qui est le commandement des gardes, qui, en présence du roi, prend le crédit d'une chose qu'il n'a pas faite. Nous lisons en effet au verset 25, « Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » En fait, Arjoc n'avait rien trouvé du tout. C'est Daniel qui est allé le voir pour lui dire que le roi ne mette pas à mort tous les sages parce que moi je vais lui donner l'explication. Et Arjoc était tout à fait disposé à exécuter Daniel avec le reste des sages du roi. Hein? C'est ce que le verset 24 nous dit. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Alors, Arjoc veut prendre tout le crédit. « J'ai trouvé quelqu'un au roi, je suis bon, hein? Je suis un bon intendant. » Nous avons ici le modus operandi du monde. Comment le monde opère? À savoir, penser sur les autres le plus de blâme possible pour nos échecs et réclamer tout le crédit pour le succès des autres. Hein? C'est l'attitude humaine en général. Et cette attitude d'Arjoc se veut complètement à l'opposé de celle de Daniel. Relisons ensemble le verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel aurait très bien pu répondre, « Écoute, roi, il n'y a aucun problème, bien sûr que je le peux, je suis capable. » Et il aurait pu prendre le crédit pour lui-même. Ce n'est cependant pas du tout ce qu'il fait. Hein? Il répond au roi ainsi au verset 27-28. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Et il en remet encore au verset 29-30. « Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Belle attitude, hein, qu'on devrait nous-mêmes reproduire, n'est-ce pas, lorsqu'on présente l'Évangile aux gens et qu'ils nous disent « Waouh, t'en connais des choses !» Ben, écoute, c'est l'Esprit du Seigneur dans sa parole qui nous a donné cette révélation-là et c'est à lui que va toute la gloire. Donc, Daniel raconte le rêve avant d'en donner l'explication, et nous sommes ici, bien sûr, en terrain connu, hein, dans versets 32 à 46. Daniel, effectivement, révèle ce que Dieu lui a confié, révèle le fait qu'il y aura quatre empires qui vont se succéder. De façon générale, on considère bien sûr qu'il s'agit de l'Empire babylonien, ensuite des Mèdes et des Perses, ensuite de l'Empire égyptien, et ensuite de l'Empire grec, et ensuite de l'Empire romain. Donc, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Certains croient que c'est davantage Babylone, les Mèdes, ensuite les Perses et ensuite les Grecs. Mais on prend généralement les Mèdes et les Perses comme une seule empire en vertu de l'alliance qu'ils avaient faite, n'est-ce pas? Et ils ont dominé pendant un certain temps. Et là, il y a des gens qui se sont évertués, n'est-ce pas, à tenter de mettre toutes sortes de dates. C'est pas vraiment ce qui importe. Quel est le message central de ce texte-là, du rêve de ce matin, du rêve que ce matin Daniel explique à Nebuchadnezzar? Ben, c'est simplement que les royaumes du monde ne sont d'aucune façon éternels, mais qu'ils sont passagers, qu'ils sont en fait d'une banalité quasi déconcertante, qu'ils sont éphémères. Alors, ce rêve de Nebuchadnezzar met en particulier trois éléments en lumière quant à l'histoire humaine. Premièrement, nous voyons, comme je viens de le dire en d'autres propos, la nature transitoire de l'autorité humaine. Deuxièmement, le caractère éphémère des puissances de ce monde. Et troisièmement, et c'est ici l'important, la pérennité, ce qui dure à jamais, hein, la pérennité du royaume de Dieu. Premièrement donc, la nature transitoire de l'autorité humaine. Nous voyons en effet que c'est Dieu qui accorde gloire et puissance aux royaumes humains, hein. Cela ne vient pas de leur propre force. Dieu ici a conféré à Nebuchadnezzar une souveraineté, un pouvoir, une gloire inégalée. C'est ce que nous lisons au verset 37. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Et sa situation, et ça c'est vraiment intéressant, elle est décrite dans les termes mêmes qu'on retrouve au moment de la création. Comme Adam, il lui a été donné à Nebuchadnezzar autorité non seulement sur les êtres humains, mais aussi sur le règne animal. Hein. Il a remis entre tes mains, verset 38, « En quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. » On retrouve les mêmes propos, en fait, que Dieu avait tenu à l'égard d'Adam. Hein. « Tu domineras sur les bêtes des champs, sur les oiseaux du ciel, et le reste, et le reste. » Mais lui aussi, Nebuchadnezzar, comme Adam, par son péché, il a perdu sa position d'exaltation. Même s'il est la tête d'or de l'histoire, hein, il peut encore être réduit en poussière, comme en fait foi le verset 21, « C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Enfin, la nature transitoire de toute l'autorité humaine représente le thème central. C'est la thématique du rêve du roi Nebuchadnezzar. Ça nous rappelle que tous les royaumes terrestres ont un après. Il n'y en a aucun qui dure. Tout royaume humain devient rapidement, passez-moi l'expression anglaise, un has-been. Et c'est ce que nous voyons ici dans l'interprétation que Daniel donne, n'est-ce pas? Qui plus est, le progrès de l'histoire de la rébellion humaine, la croissance de la rébellion humaine contre Dieu, ne se limite pas uniquement à une succession de royaumes perpétuels, mais elle se veut aussi une régression continuelle. N'est-ce pas? L'humanité est loin de s'améliorer, comme certains optimistes déconnectés choisissent de croire. Le déroulement de l'histoire humaine se fait non pas de manière ascendante, mais de manière descendante. Et c'est bien ce que nous voyons ici, alors que nous passons de l'or à l'argent, à l'airain et finalement au royaume de fer. Hein? Alors, l'or, c'est plus précieux que l'argent. L'airain, c'est moins précieux que l'argent. Et finalement, le fer, c'est moins précieux que l'airain. Le royaume final, non seulement est-il inférieur en gloire au premier, mais le fer, si on le compare à l'or, hein, il est aussi inférieur en unité, parce qu'on retrouve un mélange de fer et d'argile. Le verset 33 nous dit « Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, voilà bien un mixte impossible. » C'est un mixte impossible, voyez-vous. Et c'est ce que nous dit également le verset 42-43, « Comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile ?» parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et ça nous parle, n'est-ce pas, du caractère tellement vulnérable, tellement éphémère de toutes les ententes humaines, lorsqu'on en arrive à des contrats, à des ententes qu'on signe pompeusement, n'est-ce pas, et qui durent ce que dure une rose. La seule constante, en quelque sorte, de tous ces royaumes, ce qu'ils ont en commun, c'est la convoitise. C'est vraiment la soif de pouvoir, la domination, cette soif d'ailleurs qui ne sera jamais assouvie, car aucun d'eux ne tiendra indéfiniment. Voilà donc pour mon premier point, qui parlait de la nature transitoire de l'autorité humaine. Mon deuxième point est tout à fait un corollaire, n'est-ce pas? L'épitaphe de l'histoire humaine. En fait, en liant ces différents royaumes ensemble, comme faisant partie d'une seule statue en forme d'homme, le rêve nous procure un enseignement profond quant à toute l'entreprise humaine dans son ensemble, toute l'histoire humaine du début jusqu'à la fin. Ce que nous avons ici, chers amis, ce n'est pas seulement la vision du déclin et de la chute de l'Empire romain, et de ses successeurs, mais c'est littéralement l'épitaphe de toute l'histoire humaine. L'histoire de l'homme, hein, si bénie par Dieu au début, toute empreinte de gloire et de domination se termine toujours en cul de poisson, se termine par la division, se termine par la dissolution. Et nous voyons déjà ce patron, ce modèle-là, présent dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Nous voyons Adam au sortir des mains de Dieu, n'est-ce pas, tout en gloire, tout en beauté, n'est-ce pas, tout en domination, au chapitre 1 et 2 de la Genèse, et tout cela fait place au chapitre 6 et 9 de la Genèse, au grand jugement du déluge. Ce beau commencement aboutit au jugement du déluge. Et l'histoire se continue. Qu'est-ce qu'on retrouve au chapitre 11? Un autre jugement, un autre chaos de la vie humaine alors que nous assistons au jugement de Dieu dans la confusion des langues. Et selon ce modèle-là, ce patron-là, notre monde n'est pas destiné à une ascension vers des sommets glorieux. Non, il se dirige à une vitesse faramineuse qui plus est, vers une fin pitoyable. Vous savez, le portrait de ces changements et de ces échecs à répétition des royaumes terrestres contraste cependant avec ce qui les remplace. Parce que le royaume de Dieu entre dans le chaos et dans le désespoir humain. Le royaume de Dieu entre pour apporter une espérance fraîche, une espérance durable à l'humanité. Et on le voit déjà au chapitre 11 de la Genèse. Après le jugement du chapitre 11, qu'est-ce que nous voyons au chapitre 12? L'appel d'Abraham. Hein? Ah voilà, le début du peuple de Dieu, Abraham, le père des croyants, et Dieu qui se forme une société parallèle. Et le rêve de Nebuchadnezzar se termine de la même façon, avec la même conclusion. Le mot final de l'histoire n'appartient pas à une version améliorée de la statue humaine de Nebuchadnezzar, mais dans quelque chose de radicalement différent qui nous est décrit au verset 34-35, n'est-ce pas, de ce chapitre 2. « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Voyez-vous, tous les royaumes humains qui composaient la statue, l'or, l'argent, l'airain, le fer et l'argile, tout cela est emporté par le vent et on ne trouve plus de place. Mais la pierre, elle, qui s'est détachée sans le secours d'une main humaine, devient un royaume éternel. Cette pierre, ça va de soi, décrit clairement le royaume de Dieu qui sera établi par la venue du Seigneur Jésus-Christ, hein, et son œuvre d'accomplissement du salut. Et c'est un royaume qui prend forme de manière bien modeste, sans trop d'apparence de gloire, une pierre, mais qui va aller en croissant par la puissance de Dieu jusqu'à dominer la terre entière et à devenir le fait ultime de l'histoire. Et seul ce royaume-là, ce royaume divin, est éternel, et ça m'amène à mon troisième point, la pérennité du royaume de Dieu. Quelle devrait être notre réponse à la suite de ce rêve-là, lorsque nous prenons connaissance de l'interprétation de ce rêve-là donné par Dieu? Bien, premièrement, le rêve de Nebuchadnezzar nous encourage à voir plus clairement la réalité autour de nous, hein? La nature transitoire de toute la gloire, de toute la puissance des royaumes ou des gouvernements humains est un rappel pour nous, Nord-Américains. Comme ce le fut pour les Babyloniens et compagnie, n'est-ce pas? Sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. Quel que soit notre contexte de vie, que nous vivions sous une dictature hostile ou encore dans une démocratie bienveillante, tout cela n'est que passager et c'est une réalité qui lance un défi à nos priorités et à nos valeurs, chers amis. Quel royaume sommes-nous en train d'ériger? Est-ce que nous sommes investis, à corps perdu, dans la poursuite de la puissance, de la gloire d'un royaume en ce monde qui, inévitablement, va décliner et sombrer dans l'obscurité absolue? Ou sommes-nous partie prenante du royaume qui seul revendique la pérennité, revendique l'éternité, à savoir le royaume de Dieu? Plus encore, quel est notre instrument de mesure de succès? Est-ce que ce sont les standards changeants des apparences ou avons-nous les yeux fixés sur la réalité ultime? Vous savez, c'est facile de se décourager alors que nous cherchons l'avancement du royaume de Dieu si notre unité de mesure, c'est le présent seulement. Hein, l'Église, sur la terre, tellement souvent de fois, a semblé faible, sans puissance, presque en voie de disparition, assaillie par toute une pléthore de problèmes. Nos propres vies, d'ailleurs, ne donnent pas l'évidence de grands progrès dans la sanctification. Cependant, la réponse à la tentation du désespoir, c'est de fixer nos yeux sur les promesses glorieuses de Dieu. C'est d'avoir cette confiance qu'en son temps, Dieu bâtit son royaume dans nos vies et dans le monde. Et rien ni personne ne peut empêcher la réalisation de son dessein parce que le chapitre final de l'histoire a déjà été écrit et nous en avons lu une version ce matin. Le royaume de Dieu va s'établir pour l'éternité. Il y a deux circonstances particulières où nous avons besoin d'entendre et de prêter attention à cette vérité-là. Premièrement, lorsque les choses tournent au vinaigre dans nos vies. lorsque toutes nos espérances terrestres, nos ambitions, lorsque nos rêves volent en éclats, lorsque nos vies semblent littéralement piétinées par les royaumes de ce monde, nous devons nous rappeler que ce n'est pas le mot de la fin. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie, à l'isolement, à l'incapacité et même à la mort, nous devons garder à l'esprit qu'il y a un royaume au-delà de la tombe. Le temps vient, chers amis, où le royaume de ce monde deviendra le royaume de notre Dieu. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Amen. » Paradoxalement, nous devons aussi demeurer bien au clair sur cette vérité lorsque tout va bien. Lorsque l'herbe de notre vie est verte, que le soleil est à son zénith et que les oiseaux de nos circonstances chantent, que nos ruisseaux gazouillent, à qui mieux, n'est-ce pas? Sombrer un peu dans la poésie, tiens. Ce rêve n'a pas qu'un message pour Nebuchadnezzar, qui était la tête d'or. Lorsqu'il nous arrive à nous aussi de nous sentir la tête d'or, lorsque nous profitons des effusions d'honneur et des faveurs de ce monde, nous devons savoir même avec certitude qu'il y aura un après. Le jour viendra où toutes nos petites réussites, nos ombres de gloire, reposeront dans la poussière et où nous nous tiendrons tous devant notre Créateur pour rendre des comptes. Et lorsque ce jour viendra, et on ne sait pas quand, hein? C'est peut-être bien plus tôt qu'on le pense. Ce qui importera alors, ce ne sera pas notre place dans la statue qui décrit la succession des royaumes humains, hein? Non, ce sera notre appartenance à la pierre. Cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, ce royaume dont l'établissement n'est attribuable à aucun être humain, c'est l'œuvre de Dieu qui vient au secours de sa créature déchue. Et c'est ainsi qu'au début de son ministère terrestre, Jésus vient inviter les pécheurs que nous sommes à devenir citoyens de ce royaume-là. Dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15, nous lisons ce qui suit. « Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est le fait que Dieu est entré dans l'histoire pathétique de l'humanité en rébellion contre Dieu, justement. Le Dieu Tout-Puissant s'est incarné, il s'est fait homme. Il est venu vivre la vie qu'Adam aurait dû vivre, que nous aurions dû vivre, en parfaite soumission au commandement de Dieu. Lui, il l'a fait, sans une seule chute. Et pourtant, il est allé mourir sur la croix. Pourquoi? Parce que nos péchés, chers amis, ont besoin d'expiation. La grâce ne veut pas dire que Dieu dit « Bon, ok, on oublie tout ça, on remet les compteurs à zéro. » C'est pas du tout. Ce serait pas un Dieu de justice s'il permettait cela. Chacun de nos péchés doit impérativement être expié, et c'est ce que le Christ est allé faire en croix. Et après avoir fait l'expiation de nos péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend toute la justice que le Christ a acquise durant toute sa vie, durant sa vie parfaite, sa vie de juste, et il la met à notre compte, et il prend nos péchés, et il les met au compte de la croix du Christ, la croix qu'il a soufferte. Et c'est ainsi que nous devenons citoyens du royaume de Dieu. C'est l'œuvre première et entière de notre Dieu. Et c'est lui, Jésus, qui nous invite à venir à lui. Hein? Repentez-vous, changez de manière de penser et croyez à la bonne nouvelle. L'émission prend fin sur cette note ce matin. Pardonnez-moi. Vous savez qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Il me reste à vous donner nos coordonnées si vous désirez nous contacter. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5. Si vous disposez du service Internet, vous pouvez visiter notre site et voir également notre adresse courriel. Alors, vous allez sur le site Internet foifm.com, notre numéro de téléphone, le 6-88-0506 dans le 88, sinon le 1-877-659-0251. Merci de votre forte agréable présence et recevez l'invitation pour la prochaine. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous comble de ses bienfaits.